Bonjour, merci d'écouter ce podcast consacré au projet Next, enfants placés en famille d'accueil prochaine génération. On va en parler, et plus particulièrement dans cet épisode, des relations nourricières. Ce sera le sujet d'une des recherches de ce projet Next. Et pour échanger, en parler, en débattre, trois intervenants qui vont se présenter. Bonjour à vous tout d'abord, Michel et Paul.
Voilà, eh bien, bonjour. Donc, nous sommes une famille d'accueil maintenant depuis 1998. À ce moment-là, nous avions une fille qui avait 7 ans. Nous avions de la place dans notre famille, dans notre cœur. Et c'est là qu'on a décidé d'accueillir un enfant. Cet accueil, cette décision, en fait, elle découlait d'un processus d'adoption. Nous intéressions à l'adoption et c'est de fil en aiguille que l'office chargé de l'évaluation nous a informé sur l'existence de l'accueil familial, chose qui nous intéressait très moyennement vu que nous souhaitions une relation à long terme. Et c'est dans ce contexte-là après que l'office d'évaluation nous a proposer de prendre en charge un enfant de 10 mois à l'époque. Voilà. Et ça fait 24 ans, 23 ans que ça dure.
Comme il a dit, nous n'étions pas très, comme on dit, chaud pour l'accueil, parce qu'on nous a dit, ben, on ne sait jamais quand l'enfant devra retourner dans sa famille biologique. Et notre idée était vraiment de donner une place pour toujours dans notre famille. Et puis là, le cas était différent en ayant un enfant ici qui avait besoin d'une famille et que c'était prévu à long terme. Évidemment, ça changeait la donne. Et puis, on s'est aussi dit pourquoi chercher ailleurs quand il y a un enfant qui a besoin d'aide et voilà, un toit, une famille ici à Genève.
Et bonjour à vous, Mathilde Etienne. Vous allez vous contribuer à cette recherche, travailler à ce sujet.
Oui, bonjour. Voilà, donc je m'appelle Mathilde Etienne. Moi, mon parcours, donc mes études, j'ai fait un bachelor en sciences sociales et politiques à l'Université de Lausanne, suite à quoi je me suis dirigée dans le domaine du travail social. Plus particulièrement, j'ai travaillé dans deux foyers d'accueil d'enfants placés, l'un d'urgence et l'un à moyen long terme pour des enfants âgés de 5 à 16 ans et en grande majorité placés par les services de protection de l'enfant. Suite à ces expériences, j'ai repris mes études, j'ai fait un master interdisciplinaire en droit de l'enfant de l'Université de Genève, toujours dans l'objectif d'approfondir mes connaissances et mes compétences dans le domaine de la protection de l'enfant. Plus récemment, j'ai été engagée dans ce projet Palatin sur les enfants placés en famille d'accueil prochaine génération et sur une des trois études qui en découlent, qui concerne le bon accompagnement des relations nourricières. Et c'est donc dans le cadre de ce projet où on a à cœur de donner voix aux personnes concernées, donc autant aux enfants placés en famille d'accueil qu'aux membres des familles d'accueil, tant les parents que les enfants biologiques quand il y en a, mais également aux familles d'origine et aux professionnels impliqués dans le suivi et l'accompagnement de toutes ces relations.
Alors Mathilde, comment est-ce qu'on peut tenter de définir ce que serait un bon accompagnement des relations nourricières ?
Eh ben, c'est exactement l'objectif de ce projet. Donc pour l'instant, moi je ne peux pas y répondre, on n'a pas encore entamé nos entretiens. En revanche, ce qu'on peut déjà dire, c'est sur la définition des relations nourricières en soi, où on pourrait penser qu'elles impliquent principalement les enfants placés et les parents nourriciers. Nous, on en a une définition plus large dans le cadre de ce projet, dans la Fondation Palatin, on a une définition plus large qui prend en compte évidemment les enfants placés, les parents nourriciers, mais en effet toute la famille d'accueil, la famille d'origine et tous les professionnels avec lesquels ils sont amenés à collaborer dans le suivi de ces relations.
Est-ce qu'on a une idée de certains critères ou indicateurs pour mesurer ce que serait un bon accompagnement ?
c'est un peu trop tôt dans le sens où en Suisse, on a évidemment des indicateurs, oui, mais après, le fait est qu'en Suisse, avec le fédéralisme, on a beaucoup de pratiques, de structures et de pratiques différentes dans l'accompagnement des relations nourricières entre la Suisse allemande et la Suisse romande, mais aussi vraiment dans tous les cantons. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut en tout cas savoir, c'est qu'il n'y a pas un bon accompagnement, il n'y a pas une recette magique, une formule qui fonctionne pour tout le monde. La clé, ça semble quand même de pouvoir apporter un soutien sur mesure selon les situations qui peuvent beaucoup varier de l'une à l'autre.
Michel et Paul, est-ce que vous avez, sur la base de votre expérience, une idée de ce qu'on pourrait définir ou tenter de définir comme de bonnes relations nourricières ?
Oui, je crois que Mme Etienne a tout dit en disant qu'il y a tellement de cas différents qu'on ne peut pas répondre en deux mots à ceci. Ce qui est très, très, très important, c'est que chaque intervenant, il est conscient de son influence sur tout cet équilibre extrêmement subtil et fragile. Dans notre expérience, ce que nous avons surtout remarqué, c'est que la coordination ne joue pas. La coordination est déficiente, ne permet pas de faire coordonner les différentes décisions avec le besoin de l'enfant. La durée, les délais pour les décisions pour les droits de visite ne tient pas compte, par exemple, des cycles scolaires, ne tient pas compte de la souffrance immédiate d'un enfant. C'est parfois assez compliqué. Donc, chaque intervenant, dans notre expérience, on peut dire qu'il était compétent et engagé. En revanche, la coordination est déficiente quand on considère la durée du développement d'un enfant. C'est surtout là que nous, on a perçu de la faiblesse. Et une autre grande faiblesse qu'on a nous-mêmes vécue, on espère que c'est un petit peu mieux aujourd'hui, vu qu'il existe des associations, notamment à Genève, de soutien aux familles d'accueil. Mais moi, il nous a fallu 5 ans pour comprendre les mécanismes dans quoi on est tombé, ces dynamiques, etc. Et au début, nous étions engagés là-dedans avec beaucoup de naïveté, en offrant aussi une grande place à la famille d'origine qui venait chez nous, etc. Donc il n'y avait pas du tout une relation difficile au départ, mais je dis naïf tout simplement parce que la famille d'origine n'avait pas la capacité à reconnaître et apprécier ceci sur la durée. Donc voilà, il faut des professionnels externes à la famille d'accueil pour cadrer les choses. On a souffert de ça, vraiment. Les 5 à 10 premières années étaient très, très difficiles.
Alors, les problèmes qui viennent d'être décrits, Mathilde Etienne, ils vous surprennent ou ça correspond à des choses qu'on sait théoriquement possibles ?
Oui, alors ça correspond tout à fait, autant dans leur souffrance et dans la difficulté avec la famille d'origine, peut-être en effet pas capable d'apprécier ce qui se passe pour leur enfant, qui ont peut-être un sentiment, eux, de compétition avec la famille d'accueil, qui se sentent dévalorisés dans leur rôle, qui doivent s'adapter à un nouveau rôle de parents sans la garde de leur enfant, tout en maintenant un lien qui soit bénéfique pour l'enfant, et cette bonne collaboration aussi entre famille d'accueil et famille d'origine qui est très bénéfique pour l'enfant, qui prévient le conflit de loyauté dans lequel il et elle peuvent facilement se retrouver entre leurs deux systèmes de familiaux auxquels ils appartiennent. Donc oui, c'est tout à fait des difficultés qui se retrouvent dans beaucoup de situations d'accueil familial.
Sur le rôle spécifique de la famille d'accueil, quels sont, de votre point de vue, les éléments auxquels il faut être particulièrement attentif selon votre vécu, Paul et Michel? Que nous dire à ce sujet?
Je vais dire, si l'enfant va bien, la famille d'accueil va bien. Ça se résume à ça. Donc, si tout le monde intervient réellement en considérant l'équilibre psychologique de l'enfant, je pense que c'est tout ce qu'une famille d'accueil. Vous savez, nous avons été confrontés à deux cas, deux situations, deux fois nous avons eu affaire en demandant de l'aide à une relation avec un pédopsychiatre. Alors, il ne s'agit pas du tout maintenant pour nous de pointer du doigt une profession. Simplement, dans notre réalité, il y a une première fois, nous avons été confrontés à un pédopsychiatre qui était mandaté par un juge pour définir le cadre des droits des visites, mais cette personne, complètement prise par ses propres dogmes, a étendu en fait sa démarche en voulant soigner le handicap de la maman en travaillant sur le lien affectif. Alors même que ce travail a été fait pendant 9 mois avant la décision du placement. Donc vous voyez ce que ça amène. Donc vous arrivez ici dans des choses complètement bizarroïdes où l'organisation suite des droits de visite contribue à la souffrance de l'enfant. Parce que l'enfant, ce qu'il a besoin, c'est de poser ses valises quelque part, de sentir qu'il est là. Une fois qu'il est bien, qu'il sent que c'est solide, il peut avoir une relation avec soi, sa famille biologique. S'il est durablement, guillemets, sur une longue durée dans la famille d'accueil, ou avec sa famille d'accueil, si il sent que son attache sur la durée se trouve du côté de sa famille biologique. Mais c'est le maintien de l'enfant dans cette zone grise où lui-même ne peut pas poser ses valises, ne sait pas où il appartient.
Alors, l'enfant a vraiment, vraiment besoin de se sentir en sécurité. Et les vécus qu'on a eus, c'est au lieu de diminuer les visites des parents biologiques qui n'étaient pas favorables à l'enfant, et la guidance infantile à l'époque a vraiment voulu qu'on diminue. Et puis, voilà, la pédopsychiatre, elle voulait augmenter ses visites. Et pour l'enfant, voilà, c'est, comme mon mari a dit, c'est destructeur parce que ça désécurise l'enfant.
Et il ne s'agit pas de nier. Alors, nous sommes toujours complètement engagés dans quelque chose que j'ai adoré découvrir avec cette aventure, c'est la notion de double parentalité. Nous, on disait à l'enfant qui était chez nous, tu as de la chance, tu as deux mamans, tu as deux papas. Ça lui faisait du bien. Donc, vraiment sortir de cette notion de conflit de loyauté, comme disait Madame Etienne, très, vraiment difficile pour l'enfant à vivre.
Ben, en effet, la reconnaissance de la double parentalité, c'est très important pour l'enfant. Puis je pense que là, dans ce cas-là, en effet, ça a été très bien fait pour cette jeune fille. Et mais toutes ces problématiques autour des droits de visite, c'est très répandu, que ça provoque beaucoup de difficultés pour les familles d'accueil, qui en effet sont ceux qui se retrouvent avec les pots cassés, qui peuvent récupérer des enfants qui ont des troubles de comportement exacerbés, qui expriment un mal-être après ces droits de visite, et leur organisation, l'accompagnement de ces droits de visite qui peut en effet être lacunaire et qui peut être désécurisant pour l'enfant, mais en fait pour tous les acteurs impliqués. Pour les parents d'origine qui ont aussi du mal à s'adapter à des visites qui sont parfois médiatisées, donc de nouveau qui peuvent être dévalorisantes, où eux ont des processus essayent de s'adapter à la situation de façon parfois maladroite ou mal perçue par les professionnels, ce qui crée des tensions, des malentendus. Enfin, donc c'est sûr que c'est une problématique ces droits de visite très très importantes et ou qui génèrent pas mal de souffrances.
Moi, je pense que les droits de visite, c'est une nécessité. Il faut que l'enfant, il grandisse, il se développe avec sa réalité de son histoire de vie. Et la famille d'origine, comme la famille d'accueil, ils ont leur place là-dedans. Le but, l'enjeu, c'est de faire tout ça. C'est pour ça que je parle d'équilibre subtil, de telle façon à ce qu'on minimise le doute pour l'enfant par rapport à sa stabilité affective. Et c'est vraiment là que ça se joue. Et on peut, aujourd'hui, rien que dans l'organisation des droits de visite, vu qu'on parle de ça maintenant, si on prend mieux en compte le développement de l'enfant, par exemple, une rentrée scolaire, ne changez pas un droit de visite déstabilisant 15 jours après la rentrée scolaire. Vous voyez, ce genre de choses. Après, vous avez une escalade de problèmes. Les personnes qui sont en charge des décisions, souvent, sont quand même fortement influencées par leur propre dogme, leur propre vision de valorisation entre le lien biologique, la filiation biologique, et puis le lien construit, affectif. C'est pas toujours facile. Là nous avons une vraie attente pour les familles à venir, une meilleure prise en charge de la réalité de l'enfant sur la durée.
Alors, Michel et Paul, au-delà du droit de visite, comment, selon vous, créer de bonnes relations avec les parents biologiques ?
Idéalement, on est partenaire. Et vous savez, il y a tellement de familles recomposées aujourd'hui. Il y a une relation affective entre un enfant et sa belle-maman ou son beau-papa, etc. Tout ça, il faut désacraliser, je pense, au niveau de l'importance des relations affectives, le lien biologique. Il est extrêmement important, mais il n'est pas tout.
Moi, personnellement, je pense qu'un enfant est assez intelligent. Il comprend en fait bien plus de choses que nous pensons des fois. Et moi, je pense qu'il faut plus écouter aussi l'enfant. Parce que chez nous, elle s'est vite exprimée, en fait, sur ses visites. Et elle a aussi vite compris les déficiences de ses parents. Et le souhait qu'elle n'a pas envie de continuer, parce qu'elle ne voyait pas vraiment le bienfait de ces moments. Et en disant un peu, mais je sais qui c'est. Voilà, mais j'ai pas besoin de les voir souvent parce que ils savent pas trop quoi faire avec moi. Et elle avait énormément de peine à y aller. Alors, je dois dire, j'ai presque dû être violente pour la mettre dans la voiture. Enfin, j'étais violente parce qu'elle refusait, mais juste pour montrer qu'il faut plus écouter l'enfant. Parce qu'ils sont plus, je crois, plus clairvoyantes que ce qu'on croit.
Nous imaginions au départ avoir une vraie place dans notre famille pour les parents biologiques. Nous imaginions qu'ils pouvaient être là, les fêtes de Noël, etc., des anniversaires. Bref, élargir notre famille au-delà de l'enfant. Dans notre cas, ça n'était pas possible, compte tenu de l'handicap, des handicaps parents biologiques. Mais voilà, dans le meilleur des mondes, ce serait l'idéal, quoi. Ce serait l'idéal.
Mathilde Etienne, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur cette question des relations avec les parents biologiques ?
Eh ben, les parents biologiques, déjà en termes de recherche, on a très peu leur point de vue. La recherche est très lacunaire les concernant et on espère qu'avec ce projet, on aura aussi un peu plus accès à leur vision des choses, aux problématiques qu'eux identifient, aux manques qu'ils ressentent. Mais c'est sûr que ces liens-là sont compliqués et que cette collaboration idéale entre famille d'accueil et famille d'origine, elle est complète. Enfin, évidemment qu'elle serait idéale, mais elle est souvent pas facile et pas faisable dans l'immédiat. C'est pour ça que l'accompagnement des professionnels est aussi, je pense, très nécessaire dans ces moments-là pour en effet faire le lien, puisque les familles d'accueil qui offrent énormément, qui font face à énormément de défis et qui peuvent manquer de reconnaissance, puisqu'ils donnent beaucoup voilà, c'est des motivations quand même très altruistes. Et il faut pouvoir à la fois donc reconnaître les familles d'accueil et aussi prendre en compte, il y a un réel dans les témoignages, les familles d'accueil témoignent d'une frustration de pas, et plus que d'une frustration, d'une souffrance de pas pouvoir participer plus aux décisions concernant les enfants dont ils ont la charge, voilà, parfois quotidiennement pendant des années jusqu'à la majorité. Et cette souffrance-là, elle doit aussi être reconnue. Et la collaboration, la bonne collaboration entre les professionnels et la famille d'accueil et avec la famille d'origine incluse, elle est très importante pour justement que tout le monde soit entendu et en tout cas puisse comprendre les moments où il y a des choses qui sont décidées qui, en effet, ont l'air de faire souffrir l'enfant et sont quand même maintenues. Il faut pouvoir en comprendre les tenants et aboutissants de ces décisions.
Alors, Michel et Paul, vous avez décrit votre expérience, on vous en remercie, parfois les soucis aussi qui lui sont liés, mais est-ce que vous avez des choses à nous dire sur le côté positif peut-être ou les bienfaits ressentis d'être une famille d'accueil?
Alors, il y a quand même une énorme satisfaction avec le recul de participer à quelque chose qui fait sens. Il faut aussi dire que nous avons la chance que notre engagement dure longtemps et que le résultat est formidable. Donc, participer au développement d'un être comme ça, c'est une énorme satisfaction. Maintenant, quand un enfant est là, je pense que même pour une période courte, il y a un attachement, il y a de l'affection, il y a de l'amour. L'enfant, il est, même si vous tournez en bourrique, si vous faites vraiment souffrir quand il est en souffrance, il est reconnaissant. Même s'il ne le dit pas, ça, il le montre. Vous savez, quelque part, c'est la question bête, c'est toujours si c'était à refaire. Ben, la réponse, elle est difficile. Si c'était à refaire, non. Mais on est très, très content de l'avoir fait. Vous voyez la dualité, les oppositions qu'elle attend.
Il y avait des moments très lourds et pénibles. Mais comme tu as dit, avec le recul, on a quand même un sentiment de fierté d'avoir vécu cette aventure. Juste pour vous montrer aussi, notre fille biologique, elle a fait son travail de Mathieu sur le placement et l'adoption, sans nous préparer avant. Alors, elle aussi, il ne faut pas oublier, elle a vécu des moments durs, parce que tout à coup, il y a un enfant qui prend toute la place. Et elle a dû se battre pour sa place. Et aussi dire que notre enfant, voilà, adopté entre-temps, c'est elle qui a pu demander l'adoption avant ses 18 ans. Et pour nous, c'est aussi un signe de gratitude de notre travail, de son accueil.
On va aborder maintenant notre histoire. C'est terminé, ou se termine comme ça, mais c'est quelque chose d'administratif qui, dans notre cas, était important pour l'enfant sur le plan affectif. Importance du travail et enrichissement personnel, c'est ni un but, ni quelque chose en plus, si vous voulez. C'est vraiment pas ça. Il se trouve juste que dans notre cas, ça s'est fait comme ça. Mais comme Michel parlait d'Aline, j'avais envie de rajouter aussi qu'un des éléments de satisfaction, c'est aussi de découvrir la maturité, la générosité de cœur de notre fille aînée, qui, voilà, avec 6 ans d'âge en plus, c'était la grande sœur et a toujours considéré l'enfant accueilli comme faisant partie de la famille, toujours, toujours. Et ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, je pense, aussi le développement de la petite.
Eh bien, merci encore pour ces beaux témoignages, Michel et Paul. Mathilde, vous les avez écoutés avec attention. En quoi est-ce que leurs propos résonnent peut-être avec les questions que vous allez tenter d'éclaircir par ce projet Next et cette recherche?
C'est tout à fait le genre d'expérience et de situation desquelles on va aller à la recherche pour pouvoir recueillir ces témoignages et dans la façon dont nous on va s'intéresser à cette problématique. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on, au sein d'une situation, on va essayer de recueillir, on va recueillir plusieurs perspectives au sein des mêmes situations, donc d'un enfant placé, d'un membre de sa famille d'origine et d'un membre de sa famille d'accueil, ainsi que les professionnels. Ça va faire écho à tout ce qui s'est dit là. Oui, nous, on se réjouit de pouvoir contribuer à identifier ce que recouvre un bon accompagnement et ce qui peut aider une meilleure prise en charge et pallier aux problèmes qui sont identifiés ici par Paul et Michel.
Bien, on vous souhaite bonne chance et plein de succès dans cette recherche, Mathilde. Un très grand merci encore pour vos témoignages, Michel et Paul. Et on vous souhaite tout simplement, à vous trois, le meilleur.
Merci à vous.
Merci beaucoup.